Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Un Camerounais, un Indonésien et un Égyptien sont dans une prison. Le premier a écrit un texto, le deuxième a brandi un drapeau, le troisième a pris des photos. Ce n'est pas une histoire drôle, c'est une histoire vraie. Partout dans le monde, on torture, on condamne, on emprisonne pour rien. Mais il arrive aussi que ces histoires se terminent bien. C'est le cas d'Albert Wood Fox, qui après 43 ans à l'isolement aux États-Unis a été libéré. Grâce à vous. Avec Amnesty International, agissez pendant les 10 jours pour signer sur amnesty.fr. Il y a 2 ans, Ivo était un étudiant brillant de Yaoundé. Un jour, un ami lui envoie ce SMS. « Tu sais que même Boko Haram n'embauche pas quand on a raté ses examens ?» Ça l'a fait rigoler. Alors, il renvoie le texto à un ami, qui le renvoie à un ami, qui se fait attraper par un enseignant que ça ne fait pas du tout rigoler. Dénoncé, Ivo et ses amis sont arrêtés. Ils risquent une lourde peine de prison et ça, ça n'est pas prêt de nous amuser. Avec Amnesty International, agissez pendant les 10 jours pour signer sur amnesty.fr. C'est l'histoire de Maxima et elle n'est pas très drôle. Cette paysanne cultivait ses terres en famille dans le nord du Pérou jusqu'à ce qu'une grande compagnie minière décide de s'y installer. Quand la police locale est venue l'expulser, Maxima a dit non. Quand on lui a détruit sa récolte, démoli sa maison, elle a encore dit non. On l'a menacée, on l'a frappée, on a frappé ses enfants. Elle a toujours dit non. Maxima ne cédera pas. Alors nous non plus. Avec Amnesty International, agissez pendant les 10 jours pour signer sur amnesty.fr. 14 août 2013, Le Caire, rassemblement de soutien à l'ex-président Morsi. Chokhan était là, il a tout vu. La police qui tire à vue, les chars d'assaut dans les rues. C'était comme dans un film américain, a-t-il dit. Alors lui aussi, il a mitraillé, avec son appareil photo. On lui a arraché et puis on l'a arrêté et on l'a frappé. Chokhan est photojournaliste. Depuis, il croupit en prison. Il risque la peine de mort pour des photos. Même dans un film américain, on n'aurait pas osé. Avec Amnesty International, agissez pendant les 10 jours pour signer sur amnesty.fr.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif. Donc, c'est l'émission mensuelle d'Amnesty International et Groupe d'Évreux sur, sur les ondes de Principe Actif. Donc, la deuxième émission du mois. Donc, vous venez d'entendre une voix qui n'est pas la mienne. Généralement, c'est moi qui commence, mais qui n'est pas la mienne ce soir, qui est celle de quelqu'un que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Sophia Aram, et qui, pour la deuxième année consécutive, a réalisé des petits clips radio que vous venez d'entendre sur 3 cas d'une opération qui va commencer le 2 décembre jusqu'au 10 décembre, qui est la plus grosse mobilisation mondiale de défense des droits humains et qui s'appelle 10 jours pour signer. On va consacrer une bonne partie de l'émission à cette opération 10 jours pour signer, parce que c'est quand même effectivement une mobilisation importante. Et ça m'a donné l'idée de vous parler, cette opération et cette campagne, ça m'a donné l'idée de vous parler de comment réagir par rapport à un environnement, par rapport aux droits humains, la situation des droits humains dans le monde, qui va plutôt en empirant, en se dégradant avec un certain nombre de prises de position. On en a eu l'occasion d'en parler dans nos émissions précédentes, vis-à-vis de pays qui bafouent les droits des réfugiés, qui interdisent beaucoup de choses en Turquie, en Russie, en Hongrie, etc., etc. Des prises de position, même dans des démocraties, vis-à-vis des droits des réfugiés et de la circulation des personnes qui sont tout à fait alarmantes, etc., etc. Donc, c'est effectivement une situation qui est inquiétante. Alors, comment réagir par rapport à ça? Nous, on pense qu'il y a une solution bien plus intéressante et bien plus positive que simplement se lamenter et dire vers quel mur allons-nous nous encastrer, si on peut dire. Dans quelle situation intenable va-t-on mettre les droits humains et la démocratie en général dans les années à venir? Et bien, plutôt que de se lamenter à ça, nous, on pense qu'il est plus important, plus intéressant et plus positif de se mobiliser et de s'engager. Donc, voilà, de faire de l'action et de considérer que les droits humains ne progressent que si on s'en occupe. Sinon, effectivement, c'est, ça se dégrade. Donc, cette opération 10 jours pour signer, on aura l'occasion d'y revenir tout au long de l'émission, du 2 au 10 décembre. Mais je me rends compte que j'ai oublié de vous présenter les gens qui sont là avec moi autour
J'allais
du micro.
Voilà. Bonsoir.
Il y a Sabine qui vient de vous dire bonsoir.
Bonsoir.
Il y a Ronan et il y a Mina qui doit nous rejoindre, qu'on attend. Donc Mina, voilà, on t'attend. N'hésite pas à nous rejoindre pour l'émission de ce soir. Donc, cette opération de 10 jours pour signer, ça a démarré, on avait déjà parlé l'année dernière à la même époque pour la même opération, les 10 jours pour signer 2015. Évidemment, cette année, c'est les 10 jours pour signer 2016. Ça a démarré par une initiative aux alentours des années 2000, au début des années 2000, par une initiative d'Amnesty en Pologne, qui a profité de la semaine qui entourait la date anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est le 10 décembre 1948, pour faire des opérations de signature, de signature massive, dirons-nous, entre guillemets. Et donc l'idée a germé au niveau d'Amnesty International dans les différentes sections. On vous rappelle qu'Amnesty est un mouvement mondial, pour effectivement mobiliser le plus possible de militants et de publics pour aider les gens victimes d'exactions dans leurs droits fondamentaux. Donc petit à petit, cette opération-là s'est considérablement développée. Et maintenant, à l'édition 2015 de l'an dernier, on en était à plusieurs millions d'actions, lettres, signatures de pétitions, interventions, etc., divers, manifestations, à plus de 3 millions d'opérations de soutien qui ont abouti à un certain nombre de bonnes nouvelles, de solutions pour des cas qu'on présentait. Mais ça, on va vous le dire tout à l'heure quand on vous aura présenté les cas de l'année 2016. Et donc, je pense que plutôt que de se perdre en détail sur l'intérêt de ce genre d'opération, il est beaucoup plus parlant de vous lire effectivement et de vous faire part des cas qui sont les 10 cas sélectionnés par Amnesty pour les 10 jours pour signer 2016. Et c'est Sabine qui va vous présenter le premier cas.
Oui, bonsoir. Donc, moi, je vais vous parler d'Annie Alfred, qui vit au Malawi, dans un pays qui persécute les albinos. Et elle voit son avenir et sa vie menacée. Annie Alfred, petite fille de 10 ans, souffre d'albinisme. Comme des milliers d'autres personnes atteintes de cette pathologie, Annie risque d'être pourchassée et tuée parce que certaines croyances attribuent aux albinos des pouvoirs magiques dont ils essaient de s'emparer. Elle veut être infirmière quand elle sera grande. Pourtant, elle ne pourra peut-être jamais réaliser son rêve. Cette petite fille est en effet atteinte d'albinisme, maladie héréditaire congénitale, caractérisée par l'absence de pigmentation de la peau, des yeux et des cheveux, qui entraîne une hypersensibilité à la lumière vive et au soleil aussi, notamment. Au Malawi, les albinos sont entre 7000 et 10 000, confrontés à une recrudescence de violence, y compris les tout jeunes enfants. Enlèvements, meurtres, mutilations, viols de sépulture, autant de crimes alimentés par des croyances traditionnelles et la passivité des autorités. Entre janvier 2015 et avril 2016, au moins 39 cas d'exhumation illégale de corps de personnes albinos ont été enregistrés par les services de police malawites. Leurs os sont généralement vendus à des guérisseurs du Malawi et du Mozambique pour concocter des potions magiques censées apporter la chance et la richesse. On les traite de fantômes ou d'affaires, sous-entendant leur valeur marchande. Comme celle de milliers d'albinos, la vie d'Annie se trouve menacée, et pas seulement par les grands criminels. Dans certains cas, ce sont les proches des personnes atteintes de cette maladie qui sont responsables des enlèvements, espérant revendre à prix d'or les membres de leurs victimes. Annie et les personnes comme elle ont besoin d'être protégées par la loi. Aussi, Amnesty International demande aux autorités du Malawi d'éliminer toute forme de discrimination et de violence à l'encontre des personnes atteintes d'albinisme, d'établir les mesures spéciales de protection contre les attaques, les enlèvements et les meurtres des personnes atteintes d'albinisme, y compris en pourvoyant les zones rurales d'une police de proximité pour prévenir les attaques futures.
d'enquêter sur toutes ces attaques, enlèvements et meurtres, traduire en justice les personnes responsables de ces actes et les condamner à une peine proportionnée aux charges retenues contre elles, de sensibiliser aux discriminations menées contre les personnes atteintes d'albinisme. Donc voilà, c'est un des cas des 10 jours pour signer.
Pour 10 jours pour signer 2016, voilà. Donc, je vais poser une colle à Ronan, tiens. Le Malawi, ça se trouve où ? Ah, c'est une bonne question.
Ouais, sur Terre.
Sur Terre ? Alors, c'est un État qui se trouve dans le sud-ouest africain.
Non, je savais que c'était en Afrique. Mais oui, pas...
c'est dans le sud-ouest africain. Et si vous entendez un petit peu de bruit, ne vous inquiétez pas, c'est normal.
Bonsoir.
Il y a Mina qui vient de nous rejoindre, donc qui est entrée dans le studio. Voilà, donc on est très content de la retrouver. Alors, ensuite, c'est Ronan qui va vous présenter le deuxième cas de ces 10 jours pour signer 2016.
Tout à fait. Alors, moi, le cas, il concerne Behram et Gilias, qui sont en Azerbaïdjan. Ah, j'ai toujours des noms hyper compliqués. Donc, exaspérés par l'autoritarisme du régime, les militants Behram Mamadov, qui est membre du mouvement des jeunes en faveur de la démocratie, et Gayam Ibraminov ont inscrit un graffiti sur la statue du père de l'actuel chef de l'État, Ilham Aliyev, à l'occasion de son anniversaire. Ils ont ensuite posté une photo de ce message ironique qui souhaitait une joyeuse fête de l'esclavage sur Facebook, en référence à la fête des fleurs célébrée le 10 mai, jour anniversaire de l'ancien président. Quelques heures plus tard, ils étaient tous deux arrêtés et inculpés pour détention de stupéfiants. Une accusation forgée de toutes pièces comme en témoigne le fait qu'ils n'ont été interrogés que sur cette histoire de graffiti. Behram et Gilias affirment que les policiers ont caché sur eux de l'héroïne. Battus violemment en détention, ils ont été forcés à signer des aveux. Ils m'ont ôté mon pantalon et menacé de me violer avec une matraque, a par la suite écrit Behram depuis sa prison. J'ai été obligé de faire des aveux et de signer une déclaration qu'ils avaient déjà rédigée. Le 25 octobre dernier, Gilias a été condamné à 10 ans de prison pour un simple graffiti, quand Behram, il attend encore le verdict. Donc, en fin de compte, Amnesty International demande donc aux autorités
d'Azerbaïdjan.
D'Azerbaïdjan de libérer immédiatement et inconditionnellement Behram Mamadov et Gilias Ibraminov et abandonner les charges montées de toutes pièces contre eux. Parce qu'en fin de compte, ils sont condamnés. Pourquoi tu rigoles ?
C'est où l'Azerbaïdjan ?
Ah, bah ça,
sur
c'est
terre.
Dans. Nana, et là, c'est dans l'Est. C'était en ancienne URSS. Et c'était dans l'ancienne Russie, on va dire.
Ouais, c'est au nord de l'Iran, quelque chose comme ça.
Je ne suis pas si précis que ça. Moi, je suis dans l'Est.
Oui, non, mais ça doit être. Je pense que c'est entre coincé, en façon de parler, entre l'Iran et la Russie, quelque part.
Donc
je
là-bas.
Je ne peux pas me tromper beaucoup.
Là-bas, pour écrire un graffiti.
C'est dans les steppes de l'Asie centrale.
Tout à fait. Tout à fait. Bien. Je pense que c'est toi, Didier, pour le troisième cas, non ?
Ben oui, le troisième cas. Alors, je pense que le troisième cas, ça va, au niveau des auditeurs, auditrices de l'émission, ça va vous rappeler quand même, c'est un nom qui est connu, donc ça va vous rappeler des choses de l'actualité récente, et surtout si vous avez été au cinéma, parce qu'il y a un film, je ne sais pas s'il est encore programmé, j'avoue que je ne l'ai pas encore vu.
Je suis allé le voir le week-end dernier, ouais. Je pense qu'on parle du moment.
Voilà.
Et je conseille aux gens d'y aller, parce qu'il est...
C'est le film sur Edward Snowden.
Tout à fait.
Voilà. Donc c'est un cas, c'est quelqu'un effectivement qui est connu, mais qui a besoin qu'Amnesty le soutienne, c'est clair. Et donc on demande d'intervenir auprès de M. Barack Obama, encore actuel président des États-Unis, pour qu'il gracie Edward Snowden. On va vous expliquer pourquoi. Donc Edward Snowden est en exil forcé en Russie. Il est menacé de prison pour avoir, c'est l'appellation officielle, révélé les programmes de surveillance de masse. Donc en communiquant des documents des services secrets américains à des journalistes, Edward Snowden, ancien consultant de l'agence de sécurité NSA, National Security Agency, si ma mémoire est bonne, a révélé l'ampleur de la surveillance de masse exercée par les gouvernements sur nos vies. Le lanceur d'alerte reste accusé d'espionnage et de vol de secrets d'État et risque des dizaines d'années de prison. Il vit toujours en exil forcé en Russie et sa situation reste très précaire. Quand Edward Snowden a communiqué à des journalistes des documents des services secrets américains en juin 2013, il a révélé l'ampleur de la surveillance de masse exercée au niveau mondial. Ex-consultant de l'agence de sécurité américaine NSA, il a mis en lumière le fait que des gouvernements récupèrent secrètement une large part de nos communications personnelles, notamment des courriels privés, la localisation de téléphones, l'historique de la navigation sur Internet, etc. Grâce à son courage, le monde a changé. Ses révélations ont ouvert un débat public mondial sur le droit à la vie privée face aux agissements des États. Elles ont contribué à modifier des lois afin d'améliorer la protection de la vie privée. Pour la première fois en 40 ans, les États-Unis ont adopté des textes législatifs pour contrôler la surveillance exercée par le gouvernement. Dans le monde entier, des entreprises technologiques telles qu'Apple et WhatsApp s'efforcent à présent de protéger davantage nos informations personnelles. Un ancien ministre de la Justice américain a admis que les révélations de Snowden ont rempli un rôle de service public. Le président Obama a lui-même déclaré « Ce débat sur la surveillance de masse va nous rendre plus forts ». Pourtant, Snowden risque des dizaines d'années de prison sur la base d'une loi sur l'espionnage datant de la Première Guerre mondiale, loi américaine bien sûr, qui assimile son acte au fait d'avoir vendu des secrets à des ennemis des États-Unis. Ne pouvant bénéficier d'un procès équitable dans son pays, il vit dans l'incertitude d'un exil en Russie, sans statut légal, ni passeport, ni la possibilité de voyager pour demander l'asile dans un autre pays. Donc ce qu'Amnesty International demande pour la défense d'Edward Snowden, c'est de le gracier en reconnaissance de son action entreprise pour l'intérêt public, pour protéger et défendre les droits humains des citoyens américains et du monde entier, et de reconnaître qu'Edward Snowden est un lanceur d'alerte et non pas un traître ni un espion. Donc il y a un certain nombre d'actions qu'on vous proposera et qu'on vous expliquera et qui seront en ligne effectivement sur amnesty.fr dès le 2 décembre. Voilà. Donc ça, c'était pour le troisième cas dont on voulait vous parler. Il y en a un quatrième dont va vous parler Sabine.
Donc Chokan, en Égypte.
Non, c'est où c'est
risque la peine de mort pour avoir exercé son métier de photojournaliste. Il est connu sous le pseudonyme de Chokan, le photojournaliste Mahmoud Abou Zaid, qui a couvert la sanglante répression du sit-in des partisans de Mohamed Morsi, a été interpellé le jour même et torturé. Il croupit en prison depuis 3 ans. Mahmoud Abou Zaid, 29 ans, faisait simplement son travail. Ce photojournaliste prenait des photos de la répression par les forces de sécurité de la manifestation de Rabat al-Adawiya au Caire, le 14 août 2013. Une manifestation réunissant des milliers de partisans de Mohamed Morsi, premier ministre élu d'Égypte, renversé 2 semaines plus tôt. C'était comme dans un film américain, a-t-il écrit par la suite, comme si nous étions en guerre. Les balles, le gaz lacrymogène, le feu, les policiers, les soldats et les chars partout. Chokan a enregistré le chaos autour de lui. En l'espace d'une journée, près d'un millier de personnes ont perdu la vie. Quand la police a découvert qu'il était journaliste, elle l'a frappé à coups de pied, de poing, de bâton, puis détenu dans une camionnette pendant 8 heures, alors que la température dépassait 30 degrés. Sans nourriture, sans eau. Chokan se trouve toujours derrière les barreaux, dans la tristement célèbre prison de Tora, au Caire. Le jeune homme qui souffre d'une hépatite C ne reçoit pas les soins dont il a besoin. Lors d'une récente audience, il a rappelé au juge que prendre des photos n'est pas un crime. En détention provisoire depuis plus de 3 ans, son procès est constamment ajourné. Il risque la peine de mort pour des photos. Amnesty International demande aux autorités égyptiennes de le libérer immédiatement et inconditionnellement, d'abandonner toutes les charges retenues contre lui en tant que prisonnier d'opinion, arrêté pour avoir exercé de manière pacifique son droit à la liberté d'expression et sa profession puisqu'il était photographe journaliste. En attendant sa libération, d'assurer à Chokan l'accès aux soins médicaux dont il a besoin et de lui assurer de bonnes conditions de détention, de s'assurer qu'il ne soit plus jamais sujet à la torture ou à d'autres mauvais traitements, de lancer rapidement une enquête indépendante, impartiale et effective sur les allégations de torture et traduire en justice les personnes présumées responsables dans un procès équitable sans recours à la peine de mort.
Voilà, et donc le cinquième et dernier cas pour cette première série, parce que comme il y en a 10, effectivement, on va le partager en deux fois. Dernier cas pour cette première série, c'est Ronan qui va vous le lire. Et après, on lui demandera effectivement où se situe l'action, comme à chaque fois.
Ouais, mais là, c'est pas dur parce qu'on reste en Afrique et moi, c'est le Cameroun. Donc, le Cameroun est quand même un petit peu connu. Puisque je ne sais plus quel
le
pays
Malawi.
C'est. Le Malawi. Donc, moi, en fin de compte, c'est une action concernant Fomusso Ivofet. Et donc, il était promis à un brillant avenir. Alors que ce jeune Camerounais s'apprêtait à intégrer l'université, sa vie a basculé à cause d'un SMS. Ce jour-là, Ivo reçoit d'un ami un texto affirmant « Boko Haram recrute des jeunes à partir de 14 ans. Conditions de recrutement. 4 matières au GCE. » Donc le GCE, c'est le certificat général de l'enseignement secondaire. Ce message ironique signifie ainsi que même le groupe armé Boko Haram n'embauchait pas en cas d'échec aux examens. Ivo a fait suivre ce texto à un camarade qui l'a envoyé à un ami lycéen. Un enseignant l'ayant lu, après avoir confisqué le téléphone, l'a montré à la police et Ivo, son ami ainsi que le lycéen ont été arrêtés entre septembre et décembre 2014. Accusés d'avoir tenté d'organiser une rébellion contre l'État, ils ont été condamnés, écoutez-moi bien, à 10 ans d'emprisonnement. Donc pour un SMS.
Pour un SMS qui se voulait ironique.
Simplement. Faire payer le SMS.
Fait. Donc en fin de compte, Amnesty International demande de libérer immédiatement Ivo et ses amis et d'abandonner toutes les charges retenues contre eux.
Un petit commentaire quand même, ouais. Quand on pense qu'on risque 10 ans de prison dans certains pays pour un SMS.
Ils les ont eus.
Oui, pour tous ceux qui. Enfin, à moins qu'on arrive à le libérer, mais pour tous ceux qui nous écoutent et qui utilisent leur téléphone pour envoyer des messages ironiques, et heureusement qu'ici, jusqu'à preuve du contraire, on ne risque pas quand même ce genre de choses.
Il faudrait mettre des mots un petit peu.
Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir.
Moi, j'aurais quelques siècles de prison.
Ouais.
Ah oui.
On continuera à vous présenter les 5 autres cas de ces 10 jours pour signer tout à l'heure. Mais par contre, je m'aperçois qu'on a quand même, pas omis, mais on n'a pas pour l'instant parlé d'une manifestation importante puisqu'on parle des 10 jours pour signer. Et avant que Ronan vous fasse part d'une bonne nouvelle, c'était ça qu'il y avait une bonne nouvelle qui était prévue. Et avant la pause musicale, on vous rappelle aussi qu'on sera présent bien sûr à la Halle des Expositions dimanche prochain. Là, ça va arriver très vite pour notre foire artisanale et notre exposition artisanale, pardon, et foire aux livres. Donc dimanche prochain, on est à la Halle des Expositions de 10h à 19h. Et bien sûr, on vous présentera les actions autour de ces 10 jours pour signer. Déjà 2016, ce sera le premier jet, si je puis dire. Le deuxième étant le samedi suivant au Tech Kronxen. Donc voilà, vous pouvez déjà venir nous retrouver et agir avec nous dès dimanche prochain, bien sûr, à la Halle des Expositions. On vous attend nombreux. Une bonne nouvelle ?
Une bonne nouvelle, oui. J'ai envie de dire une demi-bonne nouvelle.
Ah bon ?
Ouais.
On coupe les bonnes nouvelles en deux, quoi.
Si elle est à moitié, elle n'est pas bonne.
Mais je pense que vous allez comprendre.
Donc en fait, on retire bonne, on dit que c'est juste une nouvelle, quoi.
Non, une demi-bonne nouvelle. Parce que pour moi, une bonne nouvelle, c'est quand c'est à 100%, quoi.
Ah bon, d'accord.
Vous allez comprendre.
Eh bien alors, ce n'est pas une bonne nouvelle.
Si, c'est une bonne nouvelle. Ibrahim, originaire de Darfour, avec son compatriote Becker, ont été interpellés à Calais suite au démantèlement du camp. Ils ont été placés au centre de rétention en attendant d'être expulsés vers le Soudan. Au regard des dangers encourus par les personnes originaires de leur région en cas de renvoi au Soudan, nous sommes mobilisés en urgence. Donc nous, c'est Amnesty. Plus de 5000 personnes ont interpellé le ministère de l'Intérieur afin qu'ils ne mettent pas la vie de ces deux hommes en péril en les renvoyant vers les zones de conflit au Soudan. Cette action a été relayée notamment par le collectif La Chapelle Debout qui suivait également la situation. Ibrahim a été libéré du centre de rétention administrative dimanche dernier. Sur décision de la préfecture du Pas-de-Calais. En revanche, Becker reste en détention et son vol est toujours prévu. Donc c'est pour ça que je dis une demi-bonne nouvelle parce qu'il y en a un qui a été libéré, mais l'ancien on continue quand même à.
Oui. Enfin, même pour le deuxième, s'il y a quand même un petit signe encourageant, c'est qu'il aurait déjà dû être expulsé et que ça ne s'est pas fait. Et que sa demande de statut de réfugié paraissait, d'après les informations que j'ai vues tout à l'heure, paraissait acceptable par la préfète de Paris, je crois, quelque chose comme, quelque
tout
chose
à fait.
Comme ça.
Parce...
Donc on a un espoir qu'il puisse sortir également du centre de détention où il n'a rien à faire.
Parce que c'est vrai que cette bonne nouvelle, elle est récente, quoi. Je dis, elle a quelques jours.
Oui, tout à fait. On s'est mobilisé la semaine dernière, hein, pour ne rien vous cacher.
Tout à fait.
On a tweeté et on a envoyé des mails à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Bernard Cazeneuve, pour ne pas le nommer.
Tout à fait.
Voilà, donc quelques mesures musicales.
On peut dire ça comme ça.
Voilà.
If blood will flow when flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun, tomorrow's rain will wash the stains away. But something in our minds will always stay.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est le groupe d'Amnesty International d'Evreux pour son émission bimensuelle consacrée principalement aujourd'hui à l'opération de défense des droits humains, 10 jours pour signer. On vient d'écouter Cassandra Wilson dans une reprise d'un morceau de Sting qui vient de sortir un nouveau disque, un Sting, mais bon, là c'était une reprise. Sting qui est un très vieux militant d'Amnesty, hein, ça fait des années et des années qu'il nous soutient. Donc le morceau s'appelle Fragile, vous l'avez reconnu effectivement.
Oh, quel accent.
Non, mais oui. Enfin, il y a une phrase que moi j'aime bien dans le disque, hein, quand elle dit « Nothing comes from violence and nothing ever could », ça veut dire en français « Rien ne peut venir de la violence et jamais rien n'en viendra
voilà. ». Oui, et il a chanté aussi... Cette chanson avec Stevie Wonder, c'est magnifique.
C'est possible. C'était le quart d'heure culturel en avance de Mina,
voilà.
qui nous a rejoint. On va continuer, on va vous lire, vous faire part du moins des 5 cas suivants, donc des 10 jours pour signer. Et après, on fera un petit point sur les bonnes nouvelles qu'on a eues sur la même opération, les 10 jours pour signer 2015, et les bonnes nouvelles qu'on a obtenues et les libérations qu'on a obtenues suite à notre mobilisation. Encore une fois, il s'agit d'une campagne mondiale, du 2 au 10 décembre. Donc le cas suivant parle des peuples autochtones de Peace River au Canada. Il y a plus de 100 ans, l'arrière-grand-père d'Hélène Nock a signé avec le gouvernement canadien un accord censé protéger le mode de vie de son peuple, la première nation de Prophet River. Cette promesse a été trahie. Les autorités ont donné le feu vert à la construction d'un méga-barrage hydroélectrique dans la vallée de Peace River en Colombie-Britannique qui inondera les terres ancestrales de ce peuple. Hélène Nock se souvient, militante des droits des peuples autochtones, elle se rappelle du traité historique que son arrière-arrière-grand-père a signé avec les autorités canadiennes afin de protéger le mode de vie des Premières Nations. En autorisant la construction d'un méga-barrage hydroélectrique menaçant les droits de la population de la vallée de Peace River en Colombie-Britannique, le gouvernement piétine pourtant cet engagement. Les peuples autochtones de cette région ont déjà perdu une grande partie de leurs terres avec l'expansion d'activités liées à l'extraction du pétrole et du gaz. Si le barrage du site C est construit, l'un des derniers secteurs où ils peuvent encore chasser, pêcher, célébrer des cérémonies et transmettre à leurs enfants leur culture sera inondé. Des responsables du gouvernement canadien ont reconnu que la prise de décision ayant conduit à approuver la construction n'avait pas pris en compte la comptabilité du projet avec les droits des peuples autochtones. La compatibilité, pardon, du projet avec les droits des peuples autochtones. Les Premières Nations, West Mowbray et Prophet River, ont saisi la justice, demandant que le gouvernement respecte le traité signé il y a plus de 100 ans et interrompe l'édification du barrage du site C. Alors que la justice n'a pas encore rendu de décision, l'entreprise hydroélectrique a déjà commencé à raser la vallée. « C'est chez moi ici », témoigne avec force Hélène Nock. « C'est ici que je vais élever mes enfants et mes petits-enfants ». Donc Amnesty International demande aux autorités du Canada de révoquer ou au moins suspendre tous les permis et toutes les autorisations en rapport avec la construction du barrage du site C, en attendant le règlement des affaires juridiques en suspens, d'intégrer l'obligation incombant au Canada de respecter le droit des peuples autochtones et de donner leur consentement libre, préalable et éclairé dans les lois et politiques, et de travailler en collaboration avec les peuples autochtones du nord-est de la Colombie-Britannique pour mettre en œuvre un cadre de protection convenu mutuellement pour protéger l'utilisation des terres en cours par les peuples autochtones. Voilà. Donc ça, c'était donc, si je compte bien, le sixième cas des dix jours pour signer. Et c'est Sabine qui va vous parler maintenant de
Maxima Acuña au Pérou, qui est une paysanne et militante. Elle se bat contre une compagnie minière qui la menace d'expulsion. Elle ne cédera pas. Cette paysanne du nord du Pérou doit faire face à de violents actes de harcèlement qui ont pour but de l'obliger à quitter les terres où elle vit avec sa famille car une entreprise minière veut l'exploiter. Maxima Acuña ne baissera pas les bras. Paysanne dans la région de Cajamarca, au nord du Pérou, elle vit avec sa famille sur des terres dont elle est menacée d'expulsion. L'entreprise Yanacocha, l'une des plus grosses compagnies minières du monde, voudrait exploiter ces terres. Maxima a engagé une bataille juridique pour conserver ces terres, mais elle et sa famille sont victimes d'actes d'intimidation. La police locale l'a frappée, ainsi que ses enfants, a endommagé sa maison et démoli une extension qu'elle était en train de construire. Des gardes armés privés sont même venus détruire sa récolte. Le courage de Maxima Acuña lui a valu de recevoir le prix Goldman, le prix le plus prestigieux dans le domaine de l'environnement et le soutien de sa communauté. Ensemble, faisons en sorte que sa famille puisse vivre en paix sur ses terres, en attendant qu'une décision finale soit rendue par la justice. Amnesty International demande aux autorités péruviennes de mettre fin au harcèlement et à la violence à l'encontre de Maxima et de sa famille, de veiller à ce qu'elle puisse continuer son travail de défenseuse des droits humains sans avoir peur des représailles, de la protéger, elle et sa famille, de garantir qu'elle ne soit pas expulsée de sa terre et que sa liberté de mouvement ne soit pas entravée, s'assurer que la police respecte, protège et garantisse les droits humains de Maxima et de sa famille, reconnaître la légitimité du travail de Maxima en tant que défenseuse des droits humains en lien avec le respect de la terre et de l'environnement, et d'enquêter sur les attaques et les agressions dont elle a fait l'objet. elle et sa famille, rendre des résultats de ces enquêtes publiques et traduire en justice les responsables de celles-ci.
Voilà, on va continuer notre tour du monde de défense des droits humains et maintenant on va aller, c'est Rodin qui va vous le dire.
En Turquie.
C'est où la Turquie?
On va pas la faire à chaque fois. Quoi.
En Europe.
En Europe. Eh oui.
Dis une petite voix.
Il voulait
adhérer à l'Europe, oui. Mais pour l'instant, c'est pas très compatible.
Ah.
L'avocate et ancienne journaliste Eren Kerçin critique les autorités turques depuis une trentaine d'années. Ainsi, en 2005, lors d'un discours, elle accusait l'État turc d'avoir massacré un enfant de 12 ans. Eren Kerçin demandait des comptes aux autorités pour ce meurtre commis en 2004 par l'armée. Ce combat, ainsi que les nombreux articles publiés dans le journal kurde qu'elle éditait, lui valent d'être régulièrement accusée d'insultes à l'État turc. En 1995, elle a passé 6 mois en prison uniquement pour avoir utilisé le mot « Kurdistan » dans un article. À plus de 100 reprises, elle s'est retrouvée devant les tribunaux. Ce nombre exorbitant de procédures judiciaires montre à lui seul le harcèlement dont elle fait l'objet, alors qu'elle est interdite de voyager, le temps presse. De nouveaux procès risquent de l'envoyer en prison à tout moment et pour longtemps. Donc Amnesty demande donc au gouvernement turc, aux autorités, de cesser le harcèlement judiciaire contre Eren Kerçin et veiller à ce qu'elle puisse exercer son droit à la liberté d'expression et mener à bien son travail de défenseuse des droits humains.
Ça me fait penser qu'un petit commentaire en complément, c'est que vous avez déjà parlé un petit peu de la préoccupation qu'a Amnesty par rapport aux violations des droits humains en Turquie, qui ne font que s'aggraver au fil du temps, avec le gouvernement de M. Erdogan, si je me rappelle bien. Et j'ai lu il n'y a pas longtemps dans la presse un extrait d'une réflexion de ce monsieur Erdogan, donc président turc, qui a dit, et c'est tout à fait révélateur de là où il veut en venir, « La démocratie, c'est comme un bus. On le prend et on s'en sert pour aller quelque part. Quand on n'en a plus besoin et qu'on est arrivé, on s'en débarrasse. » Voilà. Je pensais de la démocratie.
Du bus.
Oui. Donc c'est clair, ce monsieur-là, effectivement, veut instaurer une dictature en Turquie. On va continuer parce que le sujet du jour, ce n'est pas la Turquie, c'est les 10 jours pour signer. On va se rendre maintenant en Iran pour défendre Zeynab Jalalian. Militante des droits de la minorité kurde, elle a été condamnée à perpétuité au terme d'un procès injuste. Donc Zeynab purge une peine de réclusion à perpétuité et le monde autour d'elle devient chaque jour plus sombre. Arrêtée en raison de ses activités politiques, torturée pendant sa détention, elle risque maintenant de perdre la vue. En 2008, elle a été incarcérée en raison de ses liens supposés avec la branche militaire d'un groupe d'opposition kurde. Les autorités l'empêchent à présent de recevoir les soins médicaux qui lui permettraient de ne pas devenir aveugle. Kurde iranienne de 34 ans, Zeynab purge une peine de réclusion à perpétuité après un procès expédié en quelques minutes et entaché d'irrégularités flagrantes. Cette jeune femme militait en faveur des droits de la minorité kurde en Iran, en particulier ceux des femmes. En 2008, elle est incarcérée pour ses liens supposés avec la branche militaire d'un groupe d'opposition kurde. Pendant 8 mois, pendant son procès, elle se retrouve à l'isolement, régulièrement torturée, coup de fouet sur la plante des pieds, tête cognée contre un mur, ce qui provoque une hémorragie cérébrale et une fracture du crâne. C'est sur la base d'aveux extorqués pendant ses séances de torture qu'elle est jugée au cours d'un procès bâclé, lors duquel elle est condamnée à mort. En décembre 2011, sa condamnation à mort a été commuée en une peine de prison à vie. Aucune preuve ne la relie à ses activités armées et elle n'a pas été autorisée à communiquer avec un avocat. Zeynab souffre actuellement de graves troubles oculaires nécessitant une intervention chirurgicale par un spécialiste. Les autorités ont privé Zeynab de sa liberté. Ne la laissons pas sombrer dans l'obscurité. Amnesty International demande donc aux autorités iraniennes d'appliquer sans délai la décision du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire en libérant Zeynab Jalalian et en lui accordant son droit à réparation. En attendant, à lui fournir les soins médicaux spécialisés dont elle a besoin et veiller à ce qu'elle dispose d'un accès permanent à des soins de santé adéquats, y compris la prévention, le dépistage et le traitement, gratuitement et sans discrimination. Ordonner une enquête rapide, indépendante et impartiale sur les allégations de Zeynab sur la torture et les autres mauvais traitements subis et traduire en justice tous les responsables dans un procès équitable. Enfin, veiller à ce que Zeynab soit protégée contre les autres actes de torture et autres mauvais traitements. Donc voilà, si vous voulez effectivement participer avec nous pour permettre à Zeynab de retrouver ses droits, Eh bien, rendez-vous du, premier, du 2 au, au 10 décembre sur l'opération 10 jours pour signer. Et avec nous, là, les expositions dimanche.
Alors, et c'est le dixième cas que
Sabine qui va vous lire le dernier cas.
Joan Teterisa, en Indonésie, qui a été torturée et condamnée pour avoir brandi un drapeau indépendantiste. Joan Teterisa est emprisonné depuis plus de 10 ans uniquement parce qu'il a brandi un drapeau. Ce maître d'école a dirigé un groupe de manifestants qui ont exécuté devant le président indonésien une danse de protestation avant de déployer un drapeau interdit par le gouvernement. La police les a emmenés, fouettés, frappés et jetés en prison. Joan Teterisa a été condamné à 15 ans de prison. Maître d'école féru de droits humains, Joan Teterisa purge actuellement sa peine de 15 ans pour avoir brandi un drapeau interdit. En juin 2007, devant le président indonésien, il prend la tête d'une manif. Festation pacifique, rassemblant 22 personnes, essentiellement des enseignants et des paysans. Les manifestants exécutent une danse guerrière traditionnelle avant de déployer un drapeau Benang Raja, symbole historique de l'indépendance pour le peuple de la province des Moluques, à l'est de l'Indonésie. Les forces de l'ordre les frappent puis les emmènent dans différents postes de police. Elle les oblige à ramper sur l'asphalte, les fouette avec des câbles électriques, leur assène des coups de crosse sur les oreilles jusqu'à ce qu'elles saignent. Les tortures se poursuivent pendant l'interrogatoire officiel. À l'issue d'un procès inique le 4 avril 2008, Joan Teterisa et ses compagnons sont tous déclarés coupables de rébellion. 3 mois plus tard, la peine de réclusion à perpétuité infligée à Joan Teterisa a été ramenée à 15 ans. Il est toujours emprisonné à des milliers de kilomètres de sa famille et de ses amis. Amnesty demande aux autorités indonésiennes de le libérer immédiatement et inconditionnellement. Et tous les autres prisonniers d'opinion en Indonésie, de le transférer, lui et les autres prisonniers d'opinion, des Moluques, à la prison d'Ambon, qui se situe près de leur résidence initiale pour qu'ils puissent avoir des contacts avec leur famille et amis, qu'ils puissent avoir des visites de temps en temps. Et s'assurer que Joan Teterisa ait les médicaments dont il a besoin gratuitement, en conformité avec les standards internationaux.
Voilà. Donc, si vous avez été touché et si vous vous sentez concerné par ces hommes et ces femmes ou ces communautés qui voient leurs droits fondamentaux bafoués, on vous rappelle, 10 jours pour signer, du 2 au 10 décembre 2016. Vous venez le faire avec nous, dimanche prochain à la Halle des Expositions ou le samedi suivant au Tech Roxen. Et si vous ne pouvez pas venir, vous allez bien sûr sur le site amnesty.fr. Vous aurez toutes les actions possibles à faire en ligne. On se réécoute quelques morceaux de musique et après on va quand même donner la parole à Mina qui nous a rejoint, qui va vous parler, elle, de culture.
Oui. Your head can't rule your heart. I'm feeling so much stronger.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est le groupe d'Amnesty International Évreux pour la dernière tranche de son émission sur la défense et la promotion des droits humains. On vient d'écouter un morceau que vous connaissez tous, hein, qui n'est pas très récent, mais bon, qui s'écoute toujours agréablement. C'est Vertigo, d'un groupe qui est également un soutien d'Amnesty depuis très longtemps et qui s'appelle
U2,
comme dit Françoise quand elle en parle. Oui. Bref. Et maintenant, effectivement, alors on va quand même changer de sujet après vous avoir longuement parlé de défense des droits humains et des cas des 10 jours pour signer. C'est Mina qui va vous parler de...
Livres. De BD. Voilà. Et je vais commencer par une petite devinette pour Ronan.
Attention, Ronan. Ronan se cache sous la table.
Disons qu'en Russie, on peut répartir les journalistes en deux catégories, les bons et les méchants. Les bons sont pour la Russie. Ce sont les porte-parole de l'État, fidèles à Poutine et à ses partisans. Les méchants sont contre la Russie, pour faire bref, ce sont ceux qui disent la vérité. Alors, à ton avis, ma BD, mon roman graphique, parle de qui ? Elle fête, quoi, elle fête pas, malheureusement.
Moi, je dirais qu'elle parle des deuxièmes.
Oui, mais... d'une personne dont tu as parlé il n'y a pas longtemps.
Anna Politkovskaya.
Politkovskaya.
Non, mais je savais... Voilà.
Journaliste dissidente, donc aux éditions Stenkis, de Francesco Mattosi, Elisabetta Benfato. Et oui, parce qu'hier soir, j'ai réécouté toutes les émissions à peu près.
Toutes ?
Et j'ai entendu tous les coups de gueule, les 10 ans, tout.
Des coups de gueule ? Quel coup de gueule ?
T'as raison.
Oui, c'est vrai.
J'avais créé une nouvelle rubrique coup de gueule, mais depuis, je ne l'ai pas refait.
Ah, bah voilà.
Ouais. Bah, c'est une bonne idée de réécouter les émissions. On dit aux gens qui nous écoutent que les podcasts sont disponibles sur www.principactif.net.
Ensuite, deuxième roman graphique, Photo de la favela d'André Diniz et les photos de Mauricio Ora. Aux éditions Des ronds dans l'eau. Donc ça se passe dans une favela, c'est un jeune homme qui va devenir photographe et qui vit entouré de drogue, son père va en prison. L'histoire de Mauricio Ora est indissociable de celle du Moro de Providencia. Le projet artistique que j'ai mené avec les femmes de cette favela n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de Mauricio, à la fois photographe et historien de la plus ancienne favela des Rio de Janeiro. Mauricio a le don unique de résoudre tous les conflits au sein de sa communauté. Son histoire témoigne de la complexité de la réalité brésilienne contemporaine. Voilà. Deuxième roman, donc il y a aussi des choses bien qui se passent au Brésil.
Bien sûr, comme partout, heureusement.
Pour rebondir sur les morts, le projet droit et environnement qu'Edith a parlé.
Oui. Oui.
Tu vois, j'ai bien...
La dernière émission.
Attention, je rebondis.
On en a parlé tous les deux avec Edith, oui, effectivement, sur la défense des droits des militants écologistes. Voilà.
BD jeunesse à partir de 9 ans. Les enfants de la résistance. De Benoît Hers et Vincent Dugommier, qui est en deux tomes pour le moment. Ça parle de la Seconde Guerre mondiale. Et de comment les enfants vont vivre cette guerre et comment ils vont découvrir l'horreur. C'est vrai que, comme disait mon père, on s'était pris une fameuse gifle. Le matin du 10 mai 40, la guerre était là, rapidement. Ce fut la débâcle. Le 22 juin, un armistice était signé avec l'Allemagne. Nous étions vaincus. C'était l'été de nos 13 ans. À mon pote Euseb et moi, et nous n'étions pas prêts à nous résigner. Donc toujours dans le combat. Ce soir, j'ai un peu des BD, des romans qui sont sur aussi parler pour ne pas oublier. Et aussi un petit côté militant, positif et pas tout le temps triste. C'est horrible, mais il y a aussi ce côté où... Après, Didier vous parlera des bonnes nouvelles, des 10 cas.
On en parle à toutes les émissions des bonnes nouvelles. Donc, c'est important de savoir ce qui s'arrange, ce qui s'améliore et ce qu'on obtient.
Voilà. Donc, malheureusement, parce qu'en fait, c'est émouvant, parce que je vous ai présenté au tout début de l'année la BD Yallabaï, avec des bombardements sur Alep, tout ça. Et quand j'ai vu que, effectivement, après, les bombardements recommençaient, j'ai fait « Ah !» Et effectivement, si vous lisez la BD ou si vous l'avez déjà lue, c'est à peu près comme ça que ça se passe. La terreur, on ne sait jamais quand ça va s'arrêter. Et puis, on est toujours une vie en suspens. Et là, je vais vous présenter une BD qui explique la jeunesse syrienne d'un enfant qui s'appelle Atiya Malawad. Je suis née le 20 août 1996 à Dera, en Syrie. J'ai passé une enfance que je croyais normale jusqu'à ce que la révolution éclate et me fasse comprendre qu'elle ne l'était pas. Ma famille et moi avons été happés par la guerre. La France nous a offert l'asile. Voici l'histoire de ma vie. Un enfant qui a eu l'asile en France. Je fais très court, hein, présentation. J'ai été très bien conseillée. J'ai pas eu le temps de tout lire, je vous avouerai. Sais que c'est des bons livres.
On peut trouver tous les livres dont tu nous parles dans les librairies, de toute façon. Il n'y a pas de souci.
Celle que je ne nommerai pas pour la deuxième fois, mais vous la connaissez. Et là, c'est un album jeunesse qui est poétique et qui évoque la guerre à deux moments différents. Ali, qui aime écrire, qui aime la fluidité des mots. Et la comparaison est faite avec un ancien prophète, que je retrouve ce nom. Je vais le retrouver. Yakout, le maître calligraphe qui vivait à Bagdad il y a environ 800 ans, également en temps de guerre. Et je le trouve poétique, et aussi comment les mots peuvent aider à supporter la guerre. Un peu de rêverie, d'évasion.
Parce que moi je connais pas le livre. Ça se passe, c'est contemporain ou ça se passe dans un passé plus ou moins lointain, l'histoire du livre, l'histoire de la bande dessinée.
Ah bah c'est une fiction jeunesse.
Ah, c'est une fiction, d'accord. Ok, d'accord.
Comment te dire?
Non mais d'accord.
Ali vit à Bagdad, une ville dangereuse qui traverse une période difficile. Il aime le football et la musique assourdissante, mais surtout, il adore pratiquer la calligraphie. Cet art ancien de dessiner les lettres. Il est inspiré par Yakout, le maître calligraphe qui vivait à Bagdad il y a environ 800 ans, également en temps de guerre. Voici leur histoire. Voilà. Et après, il faut lire.
D'accord.
Et cet album jeunesse est de James Rumford. Et Aitam, une jeunesse syrienne, est de Nicolas Hena et Kyungun Park. Voilà. Ce soir, okay. Voilà, c'est des conseils de lecture.
Ok.
L'Arabe du futur 3 est sorti.
Ah, je ne connais pas non plus.
C'est de Riyad Satouf. Mm-hmm. Bah, je vous en ai parlé, vous ne connaissez pas?
Ah, bah, je ne me rappelle plus, alors tu m'excuseras. Je n'ai pas retenu.
Tu n'as pas écouté les dernières émissions.
Je les réécoute, mais je les réécoute en général peu de temps après les émissions. Puis après, voilà. Je passe à autre chose.
Et un autre conseil de lecture, mais là, c'est plus... personnel. C'est Une nuit avec ma femme de Samuel Ben-Chitrit, celui-là je l'ai lu, et il parle de Marie Trintignant, et je m'en arrêterai là.
D'accord.
Voilà, okay. Je te passe la parole.
Ben merci Mina. Mina est la rubrique culturelle, c'est sa spécialité, mais c'est bien. C'est
la culture, mais ça fait du bien.
C'est bien, oui, ouais. Tout à fait. On a longuement parlé, mais c'était normal qu'on le fasse des 10 jours pour signer 2016. Je vous rappelle, du 2 au 10 décembre. Si vous ne pouvez pas nous retrouver lors de nos deux manifestations à Évreux, vous allez sur le site www.amnesty.fr. Vous aurez toutes les informations.
Tu peux peut-être répéter où on sera, comme tu dis.
Oui, je vais le redire, t'inquiète pas. Donc, on va conclure l'émission avec ça. Mais vous avez toutes les informations sur www.amnesty.fr, du 2 au 10. Et encore une fois, plus on sera nombreux à signer, plus les droits humains avanceront. On se pose toujours la question de à quoi ça sert tout ça quand même, et c'est tout à fait normal de se la poser. Alors juste en résumé, on voulait vous les développer, mais on n'aura pas le temps. Juste en résumé, les quatre principales victoires qu'on a obtenues grâce aux 10 jours pour signer 2015. On a obtenu la libération de Phoe Phoe Hong au Myanmar, c'est-à-dire l'ex-Birmanie. Elle avait été arrêtée pour une action de défense d'un syndicat. Et suite à un procès inéquitable, elle avait été condamnée à de la prison. Elle a été libérée suite à la mobilisation d'Amnesty. Et elle nous a longuement remercié. Si on a le temps, Renan a sa lettre de remerciement. On ne le lira pas ce soir, mais il vous le lira dans une prochaine émission. On a obtenu la libération de quelqu'un qui nous est cher. C'est Albert Wood Fox aux États-Unis. 40 ans à l'isolement, ce qui est tout à fait inimaginable. Et il a été libéré en janvier dernier suite à la mobilisation d'Amnesty International. Il était à Paris récemment. Yesenia Armanda, au Mexique. Elle avait été arrêtée par des policiers. Elle avait été torturée pendant plus de 15 heures et accusée injustement de trafic de drogue. Elle a également été libérée en juin de l'année dernière. Enfin, dernière victoire qu'on avait remportée avec ces 10 jours pour signer 2015, la libération des membres de la Lucha en République démocratique du Congo, qui avaient réclamé le respect de la démocratie par rapport au gouvernement actuel de monsieur, j'ai oublié son nom, le président actuel. Plus précisément parmi ces membres de la Lucha, de Fred Boma et de Yves Makwambala, qui étaient les deux militants de la Lucha pour lesquels Amnesty s'était plus spécifiquement mobilisé l'an dernier. Voilà. Donc, ce sont quatre parmi les avancées qu'on a obtenues. Non seulement les avancées, mais les victoires, parce qu'on a obtenu effectivement la libération de ces gens-là. Et ça prouve bien effectivement que la mobilisation d'Amnesty sert à quelque chose et que sans nous et d'autres ONG qui défendent les droits humains, bien évidemment, mais que sans nous, effectivement, les droits humains seraient encore en bien pire état que ce qu'ils ne sont à l'heure actuelle. Donc, continuez à vous mobiliser. On vous rappelle nos deux rendez-vous. Le prochain, très 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 prochain, c'est dimanche prochain, le 4 décembre, à la Halle des Expositions, 10h, 19h, notre exposition artisanale Foire aux Livres et également mobilisation autour des 10 jours pour signer.
C'est à Évreux, là, les expositions.
C'est à Évreux, là, l'exposition, bien sûr. L'entrée est bien évidemment gratuite. Et là, une deuxième action spécifiquement centrée autour des 10 jours pour signer, le samedi qui suit, le samedi 10 décembre, au Tech Rock Zen, de 15h à 20h. On vous invite à nous retrouver également pour participer au soutien et aux signatures autour des 10 jours pour signer. Voilà. Notre prochaine émission, c'est le mardi. Renan, ça y est, je vais poser une colle. On l'avait dit avant, quand on a préparé l'émission.
C'est moi qui l'ai dit.
Et il
l'a
oublié.
Non, c'est moi qui l'ai dit tout à l'heure.
C'est le mardi 13 décembre, notre prochaine émission. Donc, ce sera juste après les 10 jours pour signer. J'en profite parce qu'il nous reste encore juste une minute pour signaler que le vendredi prochain, le vendredi 9, il y a une inauguration avec un très, très gros travail de l'antenne jeune du lycée des Andelys, et qui est soutenu par le groupe d'Amnesty Louviers, et qui fait une super journée par rapport à ça, avec un programme de conférences, de rencontres assez extraordinaire, et qui bien sûr va se mobiliser lui aussi pendant les 10 jours pour signer, pour obtenir le maximum de soutien. Donc un petit salut en passant à l'équipe de lycée des Andelys qui vient de se créer, c'est une antenne jeune, créée par des lycéens avec le soutien d'une professeure qui est membre d'Amnesty, et qui a commencé à faire un travail extraordinaire. Voilà. On se retrouve le 13 décembre. Et d'ici là, n'oubliez pas, dimanche prochain, Halle des Expositions, et le samedi 10, au Tech Rock Zen. On vous attend. Merci.
Au revoir.
Bonsoir.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
L'antenne d'Amnesty International. Et tout le plaisir que nous avons aussi d'accueillir l'exposition, puisque le lycée, c'est vraiment le lieu.